Tu sais de quoi on a besoin, Seigneur. Va au-delà, touche-nous, Seigneur, et bénis Nicolas richement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Ouh. Merci, Denis. Amen. J'ai perdu mes lunettes, si bien que ceux qui sont dans le fond, je ne vois pas trop vos visages. Donc, si ça vous touche, si ça ne vous touche pas, si vous êtes content, pas content, je ne le verrai pas. Amen. C'est vrai, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui déplace nos montagnes. Amen. Amen. Je vais parler d'une montagne aujourd'hui, d'une montagne qu'on pourrait appeler la mauvaise culpabilité. Une montagne qu'on pourrait appeler la mauvaise culpabilité. Est-ce que c'est une montagne qui vous dit quelque chose? Le burn-out. Aujourd'hui, on entend régulièrement parler de ce phénomène. Souvent, j'entends voilà, telle personne qui a fait un burn-out à un moment dans sa vie. Le burn-out qui signifie littéralement, en anglais, brûler jusqu'à ce que toute substance énergétique disparaisse. Le burn-out, c'est encore se consumer entièrement de l'intérieur. En français, on parle plutôt d'épuisement professionnel. Le burn-out a des conséquences sur la santé des individus, sur la santé des entreprises, il a des conséquences au niveau économique, au niveau politique. En Suisse, sur 7,8 milliards de francs suisses qui sont attribuables aux effets négatifs de situation de travail sur la santé, sur ces 7,8 milliards, il y a 4,2 milliards qui concernent le burn-out. Donc c'est vous dire l'ampleur. Avec le stress, la dépression, le burn-out, c'est un des mal typiques, un des symptômes typiques de notre société, de notre culture, qui met l'accent sur la performance, qui met l'accent sur produire, 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 et être toujours plus performant. Spirituellement, psychiquement aussi, mais surtout spirituellement, un des moteurs du burn-out, c'est justement de la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas être assez performant, alors j'en fais toujours plus, mais ça ne suffit pas, c'est jamais assez. Alors je me culpabilise, etc., etc. Plus ça va, c'est jamais bien, c'est jamais bien. Et je me culpabilise encore plus. L'homme du 21e siècle, il est, même si d'un côté, il y a ce culte de la performance qui traduit une forme de culpabilité, et puis d'un autre, on peut se dire qu'il y a une sorte de rejet de l'autorité, on veut rien savoir des règles, il y a une forme de laxisme, tout ça. Finalement, ça aussi, ça a à voir avec la culpabilité. C'est une sorte de déni de culpabilité. C'est dire que l'homme du 21e siècle, qu'il soit dans la culpabilité, qu'il ne se donne pas le droit à l'erreur, ou qu'il soit dans ce déni de culpabilité, ben, il a besoin de Jésus-Christ. Il a besoin de Jésus-Christ plus que jamais. On a besoin de Jésus-Christ. Cette culpabilité, elle peut bien sûr se fonder sur une éducation particulière, une éducation qui justement ne donne pas le droit à l'erreur, une éducation qui est surtout faite de jugement, plus que de grâce. Mais, comme je l'ai dit, ça concerne tout homme et toute femme, quelle que soit l'éducation même qu'on a reçue. Il y a une culpabilité de fond, il y a une culpabilité existentielle. Donc de son côté, la Bible nous parle d'une chose merveilleuse, elle nous parle du repos de Dieu. Et je voudrais aller avec vous en Hébreux 4, est-ce que ça serait possible d'afficher le texte? Si quelqu'un y arrive ou pas? Non, bon. Donc si vous avez vos Bibles, ça va? Pour ceux qui l'ont. Sinon, si vous avez besoin d'une Bible, il y a des Bibles dans le fond. Donc Hébreux 4, le verset 11 que je vais lire. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Donc Hébreux 4, 11 vient encourager de s'empresser d'entrer dans ce repos pour ne pas tomber dans la désobéissance. Et c'est vrai que dans la marche chrétienne, nous pouvons être pris par la culpabilité de ne pas en faire toujours assez. On n'est jamais bien. On ne prie pas comme il faut. On ne prie pas assez bien. On n'a pas la foi. On manque de foi. Si je ne suis pas guéri, c'est parce que je n'ai pas la foi. Ce genre de choses. Je n'arrive pas à être changé par Dieu comme je voudrais être changé. Je ne suis pas un bon père. Je ne suis pas une bonne mère. Je suis nul. Bref. On a le chic pour ça. Je ne suis pas assez saint. Alors que Dieu, il m'appelle à être saint. Jusqu'au burn-out spirituel. On peut faire du burn-out spirituel. C'est un peu ce qui concernait d'ailleurs les Hébreux, je vais m'en expliquer. Et ce matin, donc, je voudrais parler de se débarrasser de la mauvaise culpabilité. Parce que tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est une mauvaise culpabilité qui n'est pas souhaitée par Dieu. Et je voudrais en parler en abordant deux points, le repos en Dieu et la vraie obéissance. Le repos en Dieu. Donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adresse à des Juifs qui sont convertis et qui sont sous le feu des persécutions, des premières persécutions romaines. Ça fait 4 ans avant que cette lettre soit rédigée, Néron a promulgué un édit qui interdit la foi chrétienne. Donc depuis, il y a eu de nombreux emprisonnements, de nombreuses exécutions. Ce qui fait que pour des Juifs qui viennent de se convertir à Jésus-Christ, il y a la tentation de revenir au judaïsme traditionnel. Parce que là, le judaïsme traditionnel jouit des faveurs de l'État. Par exemple, les Juifs n'ont pas à faire le service militaire du fait de leur religion. Vous voyez ce genre de choses. Donc voilà. Et ceux qui le faisaient, quand les persécutions diminuaient, du coup, ils revenaient vers l'Église. Il revenait vers l'Église avec cette culpabilité, mais voilà, j'ai pas persévéré dans la foi, dans le Messie, Jésus-Christ. Et là, je reviens vers vous. Et ça posait aussi des problèmes à l'Église pour les réintégrer. Est-ce qu'ils ont le cœur sincère ou est-ce qu'ils sont opportunistes? Et puis même sans que des personnes, des Juifs convertis reviennent au judaïsme traditionnel, il y avait de toute façon cette tentation d'abandonner la foi. Et donc, ça produisait de la culpabilité. Et c'était une culpabilité qui était épuisante et qui était effrayante. Dieu va-t-il me pardonner? Dieu peut-il me pardonner? Est-ce que je vais vivre loin de sa présence toute l'éternité pour ce que je viens de faire? Alors, dans les chapitres où se trouve ce passage, les chapitres 3 à 4, donc où se trouve le passage sur le repos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux expose la supériorité de Moïse, la supériorité de Jésus-Christ. C'est pour voir si vous suiviez. La supériorité de Jésus-Christ sur Moïse. Si Moïse est le plus grand des serviteurs de Dieu, parce qu'il a conduit la famille de Dieu, il a conduit les enfants de Dieu jusqu'à la terre promise. Jésus est encore plus grand parce que lui, c'est le fils aîné. Et lui, il amène vers une terre promise spirituelle. Quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'éternel. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, le repos, donc c'est ce qui qualifie la terre promise, mais à un moment, c'est aussi, on en parle pour le temple. Le temple, c'est le repos de Dieu. On en parle aussi plus tard dans Ésaïe, dans des passages où il est question du lieu de paix dans lequel Israël se retrouvera avec son Dieu. Ce lieu de paix éternel, où il demeurera éternellement avec son Dieu, qui sera présent éternellement avec lui, juste à côté. Et c'est un lieu de paix où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura pas de souffrance, où il n'y aura pas de maladie. Un lieu où il n'y aura pas d'adversité. Amen. Un lieu où il y aura la paix totale. Totale. Waouh. Est-ce qu'on se rend compte? Et dans le Nouveau Testament, le repos, ce repos en Dieu, bien sûr, c'est le repos qui est apporté par Jésus-Christ. Parce qu'au demeurant, c'est lui, C'est ça, c'est cette terre promise spirituelle qui est ce lieu de paix totale. Et c'est Jésus qui le donne. Et il n'y a que lui qui le donne. Le repos de Dieu, finalement, c'est... Ben voilà, je vous disais que c'est le repos en Christ. Alors finalement, c'est quoi le repos en Christ ? Ben, tout bonnement, c'est le salut. C'est ça que Dieu, le repos que Jésus il apporte, le salut. Mais ce n'est pas seulement le salut au moment de la conversion. Qui, au moment de la conversion, certes, ça apporte, on entre dans une paix intérieure. Ce repos de Christ, c'est une paix intérieure qui est déjà là. C'est une paix qui peut être déjà là et qui annonce cette paix que nous aurons totalement avec Dieu quand Jésus reviendra. Mais ce n'est pas seulement la conversion dans le sens où là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adresse à des Juifs qui sont convertis. Ils ont passé la conversion. Donc c'est le salut, le repos de Dieu, c'est le salut dans toutes ses dimensions. C'est le salut qui comprend aussi finalement cette paix totale que nous aurons là-haut, que nous aurons ici-bas, quand il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est le salut dans toutes ses dimensions, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est le fait que tous mes péchés ils sont justifiés. Je ne suis plus coupable, je ne suis pas coupable, je ne suis plus coupable devant Dieu, je suis justifié. C'est finalement la transformation de gloire en gloire aussi de mon caractère, de mon être, qui est rendu semblable à la personne de Jésus-Christ. Parce que ce verbe-là, s'empresser, il est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament par Pierre et par Paul pour dire s'empresser d'entrer dans la sanctification, s'empresser de marcher en Christ. Et finalement, si le repos de Dieu, d'après l'Ancien Testament, c'est le lieu où Dieu demeure, le repos de Dieu, ce n'est pas seulement son œuvre, ce n'est pas seulement son salut, c'est Christ lui-même. Et quand j'entre dans le repos de Dieu, j'entre en Christ lui-même. C'est la marche en lui, c'est la sanctification. C'est le fait, je l'ai dit, d'être rendu semblable à lui. Mais, parce qu'il y a un mais, quand nous essayons, nous, de vivre ce repos, ça ne va pas toujours de soi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein ? Bon, ça va. Jusque-là, je fais pas faux. Pas dans l'erreur. L'entrée dans ce repos, la marche dans le salut, la sanctification, le mais, c'est qu'elle est parfois comprise comme un chemin, mais qui demande des efforts terriblement pénibles. À tel point que je ne sais pas si ça donne vraiment envie d'être chrétien. Il faut cravacher, c'est bien, t'es converti, t'es sauvé. Enfin, t'es converti, t'es sauvé. T'es converti, maintenant, va falloir cravacher dur, hein. Va falloir y aller, hein. Il y a du boulot, allez, on y va, il y a du boulot. Et puis parfois même, dans les conducteurs de l'église, on peut conduire l'église là-dedans aussi. Allez-y, allez, vous allez changer en Christ. Alors c'est en partie vrai que la sanctification, il y a une notion d'effort, il y a des choses douloureuses, on passe aussi par des épreuves, il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie qui sont là aussi pour notre sanctification. Les épreuves qu'on rencontre dans notre vie, Dieu il les utilise pour notre sanctification. Mais c'est en partie vrai que c'est pénible, c'est en partie vrai que c'est douloureux. Parce que quand ça devient de l'autoflagellation, là, c'est plus juste. Quand c'est par mes propres efforts que j'essaye de changer en Christ, là, c'est plus juste. Et on est très fort pour faire ça. Quelle culpabilité nous pouvons nous infliger sur ce chemin. Voilà. Parce qu'on ne prie pas assez. Parce que voilà. Parce qu'on fait des erreurs. Parce que là, voilà, on a fait ça et puis c'était faux. Alors, c'est vrai que finalement, bon, je vais parler de l'obéissance en parlant de la désobéissance. Mais peut-être juste avant, ce que je veux dire quand même, c'est que cette culpabilité, vous voyez, cette mauvaise culpabilité, elle est tellement présente qu'elle vient, elle vient imprégner tout ce que l'on est. Hier, j'étais juste un petit exemple comme ça. Hier, j'étais au Carnacho, et puis avec Thibaut, on a participé au concours pour les déguisements. Alors lui était en Luke Skywalker, moi j'étais en Dark Vador. Voilà. Je n'ai pas amené mon casque aujourd'hui. Mais voilà, et puis bon, on a fait une petite scène ou une petite scénette où on se battait à l'épée, et puis à la fin, bah, comme je suis le méchant, c'est moi qui meurs, normal. En plus, je suis son père, donc voilà, c'est normal. Et donc, on a remporté le troisième prix. Voilà. Et au moment d'y aller, Thibaut avait remis son manteau parce qu'il faisait froid, donc du coup, il n'était plus en costume. Et puis moi, je traînais un peu. Et puis le temps qu'on accède tout ça, et puis la personne au micro était « Bon, on attend Thibaut et Nicolas. » Moi, j'étais en train de me dire « Purée, il faut que je me dépêche. » C'est une erreur, quoi, d'arriver en retard. Vous voyez ? Je vous donne juste un petit exemple comme ça, mais c'est quelque chose qui imprègne tous nos comportements. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Mais donc, je voulais vous parler de la désobéissance. Vous parler de l'obéissance en parlant d'abord de la désobéissance. Alors, c'est vrai que dans les deux versets qui suivent, l'auteur, il parle du jugement tranchant de la parole. Et ça, c'est sûr, la parole, il y a un tranchant, c'est indéniable, elle nous juge. Nous serons jugés là-haut. Dieu nous montrera, ben voilà, telle ou telle chose, là, ça a joué, là, ça n'a pas joué. Et puis, la parole, elle nous juge déjà. Elle nous juge déjà parce que quand on est chrétien en plus, voilà, enfin, déjà même avant d'être chrétien, Dieu, il a mis une petite chose dans notre tête qui s'appelle la conscience, dans notre cœur, la conscience, et qui fait que, voilà, on sait quand même à peu près quand on fait du bien ou quand on fait du mal. Mais raison de plus quand on est chrétien, parce qu'on connaît l'Esprit de Dieu. Mais cette culpabilité qui vient de l'Esprit de Dieu, elle n'a rien à voir avec la mauvaise culpabilité. Parce que cette culpabilité, elle n'a rien à voir avec celle que nous nous infligeons. En plus, il y a l'ennemi de nos âmes, il y a l'accusateur, il y a le diable qui est là pour nous aider à, voilà, parce que ça nous accuse bien. Cette culpabilité qui vient de l'Esprit de Dieu, elle est bonne parce qu'elle est vraie et parce que elle est là pour nous ramener vers lui. Et elle est là pour nous construire. Elle est là pour nous aider dans la marche de la sanctification. Donc, elle est là pour nous construire, elle est là pour nous purifier. Et en cela, elle est bonne. Elle est bonne, tandis que l'accusation, enfin, elle est bonne parce qu'elle est vraie, tandis que l'accusation, ben, c'est un mensonge. Quand je me dis, voilà, oh, j'y arrive pas, que je râle, je me plains, je suis nul, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais, voilà, je me suis encore mis en colère. Pourtant, je m'étais promis de ne pas retomber en colère. Et encore, ça recommence. Là, c'est un mensonge. Cette accusation, c'est une accusation, c'est un mensonge. La parole, elle est vivante, elle est tranchante. En fait, ces deux versets, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, nous serons jugés, mais Seule la parole peut nous juger. Seule la parole est assez tranchante pour faire la distinction entre ce qui relève de notre âme et ce qui relève de notre esprit. Ce qui relève de nos pensées humaines et ce qui relève de ce que Dieu a mis en nous et qui est Jésus-Christ. Seule la parole qui est vivante et tranchante peut faire la distinction entre ce que nous croyons nous-mêmes et qui peut être faux et qui est faux quand ce sont ces accusations. Ça correspond dans le verset. C'est pas affiché, donc vous pouvez pas. Faut que je vous les lise ces versets. Donc je reprends au verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et effectivement, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Les sentiments, c'est ce qui correspond à l'âme. C'est ce que nous croyons sur nous-mêmes, qui peut être à peu près vrai et qui peut être faux. Ces sentiments, ce sont les pensées que nous pouvons avoir quand on essaye d'échafauder nos propres solutions, quand on essaye de sauver nous-mêmes. Ces sentiments, ce sont ceux que Joseph a eus quand il a vu que « Ah, aïe, il y a un os, celle avec qui je dois me marier, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas continuer comme ça. En plus, pour elle, voilà, c'est une femme, donc qu'est-ce qui va lui arriver si elle n'est pas protégée par un homme? Qu'est-ce qui va en être de sa réputation? Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Et puis là, il commence à se dire, bon, ben, je vais rompre secrètement avec elle, et puis voilà, personne n'en saura rien. Et en fait, tout ça, c'est le même terme. Ce terme qui parle des pensées de Joseph, c'est le même terme que celui des sentiments. Donc c'est les pensées humaines avec lesquelles on construit. C'est les pensées qui sont construites par l'homme, ses propres solutions. Et puis Joseph, il fait ça jusqu'à ce qu'il y ait l'ange de Dieu qui arrive et qui lui dit « Non, c'est pas ce que tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire. Tu vas l'épouser et puis le plan de Dieu va s'accomplir. Amen. » Et ce que nous sommes en réalité, ben c'est ce qui correspond aux pensées du cœur. Ce que nous sommes en réalité quand nous sommes en Christ, c'est ce qui correspond aux pensées du cœur. Les pensées, ici, les pensées du cœur, ce n'est pas le même mot que les sentiments. Et c'est utilisé seulement deux fois dans le Nouveau Testament, ici, et puis un passage dans Pierre, quand Pierre parle de la pensée de Christ. Alors, cela veut dire que la parole nous juge, mais seule la parole peut nous juger, pas notre propre cœur. Pas notre propre cœur. Notre propre cœur, il est charnel. Et cette fausse culpabilité, cette mauvaise culpabilité, c'est de la chair. C'est pas de l'esprit. Seul Dieu connaît les vrais critères pour nous juger. Pas nous-mêmes. Seul Dieu peut le faire. Parce que sa parole, elle est tranchante, à double tranchant, elle est parfaite. Et puis, seul Dieu connaît les vrais critères. Et alléluia, parce que quand il me juge Dieu, c'est en Christ qu'il me juge. Alors, bien sûr, il va me dire quelque chose sur la manière dont je me suis conduit, mais c'est Christ qu'il voit en moi, c'est Christ qu'il voit en toi. Le Seigneur, c'est Christ qu'il voit en toi. Alors, qu'est-ce que la désobéissance ? Dont il est question dans la deuxième partie du verset 11. afin, empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Eh bien, la désobéissance, ce mot-là, il sert à parler du rejet de Dieu, du rejet du Messie déjà, par Israël, et puis aussi du rejet de Dieu de manière générale par tous les hommes. Cette désobéissance, c'est rejeter Dieu. C'est rejeter Dieu et donc c'est rejeter ce qu'il offre. C'est rejeter son salut. C'est rejeter la grâce, c'est rejeter le pardon. C'est rejeter l'espérance qu'il nous donne. C'est rejeter la vie. Et si je rejette la vie, eh bien je meurs. C'est cela. Alors, c'est vrai qu'à un moment, il est question du péché irrémissible. Péché contre le Saint-Esprit, qu'on identifie aussi au péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, il est dans les évangiles. Et là, c'est plus le péché irrémissible. Un péché que Dieu ne pourrait pas pardonner. Moi, je crois que quand on est sauvé, on est sauvé. Je crois que quand on est sauvé, on est sauvé. Après, je crois que même si nous sommes sauvés, nous serons jugés. Il y aura le tribunal de Dieu pour nous aussi. Mais on ne sera pas jugé selon les mêmes critères que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ. La vraie obéissance n'est pas de bien faire. Ce n'est pas ça la vraie obéissance. C'est de bien croire. C'est de bien croire. Le péché irrémissible, c'est ça là-dessus que je n'avais pas terminé. Moi, je crois que le péché irrémissible, c'est tout simplement refuser Dieu totalement. C'est refuser totalement sa grâce. Et quelqu'un qui refuse totalement la grâce de Dieu, qui refuse d'être pardonné, ben, il ne peut pas bénéficier du pardon de Dieu, puisqu'il le refuse. Le pardon de Dieu, il est là. Mais si la personne le refuse, elle ne peut pas en bénéficier. Si elle le refuse, ben elle refuse la vie. Pour quelqu'un qui refuse la vie, c'est la mort. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de terrain neutre. C'est la lumière ou les ténèbres. C'est la vie ou la mort. C'est Dieu ou le diable. C'est ça, le monde spirituel. C'est l'un ou l'autre. Donc je vous disais que la vraie obéissance à Dieu, ce n'est pas de bien faire, mais c'est de bien croire. C'est là-dessus, en fait, que nous serons jugés. Nous serons jugés sur le fait de... Est-ce que pour telle chose, là, on a cru en Christ? Est-ce que pour telle chose, on avait la foi que c'est Dieu, que c'est Jésus qui s'en occupait? Est-ce que pour telle chose, on a eu la foi que c'est Jésus qui a payé pour moi, qui a payé le prix? Ou est-ce que, voilà, sur cette chose, j'ai essayé de m'en tirer par mes propres forces? Sur telle chose, je n'ai pas cru que j'étais pardonné. C'est là-dessus, c'est sur l'obéissance de la foi que nous serons jugés. Croire en Christ... Je vous disais, la véritable obéissance à Dieu, ce n'est pas de bien faire, mais c'est de bien croire. C'est croire qu'en Christ, je suis justifié et je suis pardonné. Amen. En Christ, je suis justifié et pardonné. En Christ, tu es justifié et tu es pardonné. Et l'obéissance selon Dieu, c'est vivre en justifié et en pardonné. C'est vivre selon ce statut. Ça, c'est un statut. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à acquérir. C'est fait. Christ, Jésus-Christ, il l'a fait. Amen. Si j'ai un... Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas d'effort à faire hein, dans la marche, dans la sanctification. C'est vraiment un salut merveilleux que Dieu nous a donné. Ce n'est pas à mépriser, ce salut. Quand je vois le vomi dans lequel j'étais avant de connaître Dieu... Avant de connaître Jésus-Christ, jamais j'y retournerai. Mais si j'ai un effort à faire, c'est de disposer mon cœur à cela. Si j'ai un effort à faire, c'est de croire. C'est de croire que je suis justifié et que je suis pardonné. Amen. Et c'est de vivre en tant que tel. Et puis, ouais, alors c'est sûr qu'on va pouvoir rencontrer des choses dans notre vie qui veulent nous faire croire le contraire. Un péché, on ne pratique pas le péché, on n'est plus pécheur, mais voilà, il y a un péché avec lequel on ne s'en sort pas parce que voilà, il y a une souffrance aussi qui est derrière. Et voilà, on lutte. Et c'est quelque chose dont on n'a pas envie. Donc si c'est quelque chose dont on n'a pas envie, voilà, ça veut dire que c'est pas nous. Si c'est quelque chose dont on n'a pas envie, ça veut dire qu'on sait clairement que ce péché, ça vient, enfin voilà, c'est que ce que l'on vit, c'est pas de Dieu là. Alors c'est vrai qu'il y a des situations comme ça, on peut se dire mais j'y arrive pas quoi. Mais même quand on vit cela. Peut-être que si on n'y arrive pas, c'est justement parce qu'on ne se vit pas comme un justifié et un pardonné. Et c'est par le fait de croire que l'on est justifié et pardonné, et ça, Dieu, c'est Dieu qui nous aide à cela, qu'à un moment, on pourra être délivré. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un processus. Les choses, elles se vivent selon un processus. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on peut tomber, voilà, on vit des épreuves dans notre vie. Il y a des difficultés, et puis on se dit, c'est bon, quoi, il y en a marre, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Qu'est-ce que t'attends, là? J'en ai marre de vivre ça, et puis ça tombe. Mais t'es où, là? Et c'est vrai que ces choses-là peuvent nous décourager. Mais nous avons quelqu'un qui a la victoire, qui a remporté la victoire. Et c'est ça que Dieu nous demande, c'est d'avoir cette foi. Donc la vraie obéissance en Dieu, c'est de vivre par la foi en Christ et en sa grâce. Alors pour conclure, certes, je vous l'ai dit, on sera jugé. Certes, vivre par la foi, ça demande d'exercer la persévérance, ça demande de ne pas relâcher ses efforts. Parce que, comme je vous disais, on ne peut pas mépriser un si grand salut. Mais c'est au travers de Christ que nous serons jugés. Au travers de Christ. Au travers de Christ qui est mort pour nous. Au travers de Christ qui est ressuscité. Au travers de Christ qui nous justifie. On n'aura pas à dire, ah bah oui, mais là, ouais, c'est parce que, il y avait si, c'est parce que, quand dans mon enfance, il s'est passé si, il s'est passé ça. Non. On ne pourra pas dire tout ça. Voilà, on acceptera le jugement de Dieu. Ça sera clair et net. Mais c'est au travers de Christ que nous serons jugés, lui en qui nous avons la justification et le pardon. Et que ce soit dans ma bataille contre le péché ou dans la persévérance de la foi face à l'épreuve, il ne s'agit plus de marcher dans la sanctification par mes propres efforts. Parce qu'en fait, c'est comme si on continue d'essayer de gagner notre propre salut, en fait, quand on fait ça. Quand on marche dans la sanctification par nos propres efforts, on essaye de gagner notre salut. Finalement, on se conduit charnellement. On essaye de gagner notre propre salut au lieu de vivre par la foi en considérant qu'on est en Christ. Je voudrais terminer par le passage qui est... les versets qui suivent ce passage que nous avons lu. Tu peux l'afficher, c'est les versets 14 à 16. Ça me semblait important de faire ce message parce que je crois qu'on n'a pas tout compris avec par rapport à la sanctification. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui, pour moi, je ne supporte pas de faire une erreur. C'est insupportable pour moi. Et Dieu, dernièrement, j'ai souvent vécu sous la culpabilité. Et Dieu, dernièrement, vraiment a changé les choses par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pu aussi entendre tout cela. Mais je crois qu'on n'a pas tout compris par rapport à la sanctification. Et, Et je crois que si on veut marcher dans la sanctification, il faut poser le bon fondement. Et le bon fondement, c'est que nous sommes justifiés et pardonnés. Le bon fondement, c'est de marcher à partir de notre véritable identité. Et être justifié et pardonné, c'est un statut que nous avons. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est là. Les versets 14 à 16, Hébreux 4, « Puisque nous avons un grand souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Voilà, on va passer maintenant à la Sainte Cène. Si suite à ce message, il y a quelque chose qui vous traverse par rapport à une culpabilité, quelque chose que vous ne vous pardonnez pas, je vous invite vraiment au nom de Jésus, à vous pardonner. Je vous invite à proclamer, vous êtes couverts par le sang de Christ, que Dieu vous a pardonné et de vous pardonner à vous-même. Et si vous ne connaissez pas, s'il y a quelqu'un ici parmi nous qui ne connaît pas Jésus-Christ, je vous invite à vous adresser à lui. Je vous invite à vous adresser à lui tout simplement en lui parlant, au fond de votre cœur, en lui disant que vous voulez connaître ce salut qu'il offre. Vous voulez être débarrassé de la manière dont se passe votre vie jusqu'à présent, et que vous voulez vraiment que les choses changent. Vous voulez cette paix. Vous voulez connaître cette paix. Cette paix totale que l'on peut déjà connaître. Amen. Amen.